Dès le second siècle, le pasteur Dermas affirme que tout homme a son ange gardien, dont il doit suivre les inspirations pour pratiquer la justice et se préserver du mal. Et saint Basile, au IVe siècle, écrit « Que chaque fidèle soit assisté d'un ange qui guide sa vie comme un pédagogue et un pasteur, personne n'y contredira, s'il se souvient des paroles du Seigneur disant « Ne méprisez aucun de ses petits ». Et saint Jérôme, le grand bibliste qui a traduit en latin la Bible, en ayant accès à des textes hébreux qui ont disparu aujourd'hui, saint Jérôme écrit « Si grande est la dignité des âmes que chacune, dès sa naissance, a un ange préposé à sa garde. » Donc, bien que l'Écriture n'affirme pas expressément l'existence des anges gardiens et que l'Église n'ait pas défini cette vérité comme obligatoire, il serait téméraire de la nier du fait de la très haute antiquité de cette doctrine et de l'expérience que tant de saints ont faite de leur existence, et ça va être le plus clair de ma conférence. Et au lieu de résister, au lieu de raconter aux enfants des contes absolument inimaginables, on pourrait peut-être leur raconter ces histoires vraies qui peuplent l'histoire de l'Église. C'est à Valencia, en Espagne, qu'a été créé pour la première fois un office en l'honneur de l'ange gardien. En 1590, le pape Sixte Quint accorde lui aussi au Portugal un office spécial. En France, c'est l'évêque de Rodez qui fait rédiger un office en l'honneur des saints anges gardiens, office qui sera approuvé par le pape Léon X en 1518. Et alors, c'est seulement au 15e puis au 17e siècle que la fête des anges gardiens va vraiment s'installer le 2 octobre. Il y a même des gens qui pensent qu'ils ont deux anges gardiens. Saint François de Sales, vous savez que Saint François de Sales est celui qui a écrit pour la première fois en langue française, c'est pour ça qu'il est le patron des professeurs de lettres et même des journalistes. Saint François de Sales pensait qu'il avait deux anges gardiens, l'un pour lui et l'autre pour l'évêque de Genève qu'il était aussi. Dieu m'a donné deux anges, disait-il, celui de François de Sales qui m'assiste quand il s'agit de la correction, de l'amendement et du progrès de mon âme, et celui de l'évêque de Genève qui m'assiste lorsque je travaille pour le bien des âmes qui me sont commises. Alors, les papes, les grands papes du XXe siècle ont eu une dévotion extraordinaire à l'ange gardien. Je crois que ça va vous intéresser, ça. Parce que ce sont des gens que vous aimez bien et vous allez voir qu'ils avaient une grande dévotion. Jean 23, lorsqu'il recevait les pèlerins sur la place Saint-Pierre à Rome, pensait automatiquement qu'il y avait sur la place tous les anges gardiens qui accompagnaient les pèlerins. Et cette dévotion lui avait été léguée par son prédécesseur, Pie XI. Pie XI avait beaucoup médité dans sa jeunesse un texte de saint Bernard sur les anges, et du coup, lorsque le jeune abbé Roncalli, futur Jean XXIII, a été nommé représentant du Vatican en Bulgarie, il s'est entendu dire par Pie XI, « Mon cher ami, vous aurez des difficultés avec les diplomates qui sont loin d'être favorables au Vatican. Eh bien, pour faciliter la rencontre, vous demanderez à votre ange gardien d'intervenir auprès de l'ange gardien des diplomates et vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. » Habitude que Jean XXIII a toujours conservée. Hein? Donc, Pie XI, Pie XII, l'une des dernières interventions de Pie XII en 1958 a été d'expliquer à des pèlerins qui retournaient aux USA qu'il ne devait pas oublier qu'en visitant toutes les merveilles touristiques qu'il verrait encore, il y aurait quelque chose de bien plus important, les anges invisibles qui seraient au milieu de tout cela. Paul VI a été très heureux d'ouvrir la seconde session de Vatican II, quand il a succédé à Jean XXIII, le 29 septembre 1963. « Nous vous saluons, vous qui, répondant à notre invitation, dit-il aux évêques, être venu avec empressement célébrer avec nous la deuxième session du deuxième concile du Vatican. Ce nous est une joie de l'ouvrir aujourd'hui sous l'égide de l'archange Saint-Michel, protecteur céleste du peuple de Dieu. » Bon, je pense que c'est intéressant de savoir que ces grands papes n'ont pas trouvé idiot d'avoir une grande dévotion envers l'ange gardien. Une histoire assez cocasse que vous trouvez dans le Polycopier, c'est celle de Monseigneur Calvé. Je me souviens avoir étudié la littérature dans le secondaire avec un manuel écrit par Monseigneur Calvé, qui avait été toute sa vie professeur de lettres. Il est devenu ensuite recteur des facultés catholiques de Paris. Alors qu'il avait pris sa retraite, il se promène un jour dans la campagne et il voit une vieille femme qu'il connaissait depuis longtemps lui dire « Bonjour, monsieur le curé et la compagnie. » « Eh ben, madame Catinelle, je suis tout seul, pourquoi dites-vous et la compagnie ?»« Eh, monsieur le curé, vous oubliez votre ange gardien ?» Et il paraît que c'est l'origine de cette expression française « Bonjour, un tel et la compagnie. » Ne jamais oublier que vous êtes en compagnie de votre ange gardien. « J'avais reçu une fière leçon, conclut Monseigneur Calvé. Rentré chez moi, je me suis mis à écrire une prière à mon ange gardien, en latin évidemment, la langue des anges. En voici la traduction. « Saint ange de Dieu, mon frère et mon ami, gardien de mon corps et de mon âme, je te supplie d'écarter de moi tout péril et toute tentation. Réchauffe mon amour de la très sainte Trinité qui m'a confié à toi et conduis-moi sur le chemin du salut jusque dans la vie éternelle. » Et depuis lors, dans son oratoire, il aménagea une petite guérite pour son ange gardien. Alors, nous allons essayer de balbutier quelque chose sur cette action des anges gardiens dans notre vie. Cet ange gardien que le Padre Pio appelait son frère jumeau. Je connais une personne qui a reçu révélation du nom de son ange gardien, je ne vous le dirai pas. Hein? C'est pas impossible que les anges gardiens ils aient un nom. Je pense un nom assez en rapport avec notre propre spiritualité. Alors, il faut bien mettre un certain ordre dans tout cela. Dans le polycopier, vous trouverez que nos anges gardiens sont à la fois nos protecteurs, nos soutiens, nos gardiens et nos ambassadeurs. Nos protecteurs, ils écartent éventuellement les dangers qui nous menacent, soit en éloignant les objets qui pourraient nous blesser, soit en nous suggérant une démarche qui nous en éloigne. Alors, nous sommes ici en plein mystère des rapports entre le spirituel et le matériel. Vous savez que lorsqu'on réfléchit sur la condition de l'homme, comme l'a fait beaucoup Pascal au XVIIe siècle, on bute sur un mystère qu'aucun philosophe du monde n'a expliqué, comment une âme spirituelle peut agir sur des neurones matériels. C'est le comble des difficultés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains philosophes, comme Leibniz, pensent qu'il n'y a pas d'action de l'âme sur le corps, que ce sont deux horloges qui indiquent toujours la même heure, sans avoir de l'influence l'une sur l'autre. Absolument incompréhensible comment une âme peut agir sur des neurones. La science va vous expliquer l'action des neurones sur les muscles par l'intermédiaire de l'influx nerveux, ça c'est de la science, mais l'action de l'âme sur le corps c'est incompréhensible. De même, comment un ange qui n'a pas de corps, qui n'a pas de muscles, peut agir sur les corps? Nous verrons cela la fois prochaine à propos des démons. Les démons sont capables de créer un tintamarre du diable dans le presbytère du curé d'Ars. Ils sont capables de casser des objets. A fortiori, les anges sont capables de faire des choses aussi, d'empêcher quelqu'un de tomber dans un trou. Saint Philippe Néri, un jour qu'il a failli tomber, il a été retenu par son ange, il s'est aperçu que c'était son ange qui l'avait retenu. Là encore, alors dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est obligatoire, vous pouvez le nier. Voyez, quand l'Église canonise un saint, elle ne nous oblige pas à croire tout ce qui s'est passé. L'Église ne vous oblige même pas à croire aux apparitions de Lourdes ou de Fatima. Vous savez que il faut bien distinguer les choses. Il n'empêche que devant une telle multiplicité de témoignages de gens saints d'esprit, on peut quand même se poser des questions et réfléchir. Donc, les anges nous protègent. Il y a un récit très sympathique dans la Bible, c'est celui qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, verset 15. Élisée, qui aidait le roi de Samarie, le roi d'Israël, à se protéger des Araméens, a été persécuté par les Araméens, et voici l'histoire qui est arrivée. Le cœur du roi d'Aram fut troublé par cette affaire. Il convoqua ses officiers et leur demanda « Ne m'apprendrez-vous pas qui nous trahit auprès du roi d'Israël ?» C'était Élisée. L'un de ses officiers répondit « Non, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui révèle au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher, une espèce d'espion secret. Il dit, allez, voyez où il est, et j'enverrai le saisir. On lui fit ce rapport, voici qu'il est d'Adotan. Alors le roi envoya là-bas des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Le lendemain, Élisée se leva de bon matin et sortit. Et voilà qu'une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Son serviteur lui dit, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire? Nous sommes perdus. » Mais Élisée répondit, « N'ayez pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. » Élisée fit cette prière. Yahvé, daigne ouvrir ses yeux pour qu'il voie. Yahvé ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Voilà que la montagne était couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des anges qui venaient défendre Élisée contre l'armée araméenne. Comme les Araméens descendaient vers lui, Élisée pria ainsi Yahvé, daigne frapper ces gens de berlu. Et il frappa de berlu selon la parole d'Élisée. Alors Élisée leur dit, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la ville, suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Un peu menteur le gars, une ruse de guerre. Mais il les conduisit à Samarie. À leur entrée dans Samarie, Élisée dit, Yahvé, ouvre les yeux de ces gens et qu'ils voient. Yahvé ouvrit leurs yeux et ils virent, voilà qu'ils étaient au milieu de Samarie, ils étaient pris dans le piège. Bon, et alors ces chevaux mystérieux que le serviteur d'Élisée a vus, c'est une espèce de vision des anges. C'est la raison invoquée par saint Thomas pour justifier le fait que Dieu laisse ses enfants attaqués par les démons. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons attaqués par des démons ? Pour que la condition de lutte ne soit pas inégale, répond-il, l'homme reçoit en compensation la grâce divine et secondairement la garde des anges. C'est pourquoi Élisée dit à son serviteur, « Ne crains pas, nous avons avec nous plus d'alliés qu'eux. »